compte ce matin dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, et le chapitre 3. Vous avez peut-être constaté un thème dans les chants ce matin. Ces chants qui ont parlé de la gloire, d'être Jésus-Christ, d'être au ciel, le retour de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi. Donc ce week-end, j'ai partagé avec quelqu'un hier, j'étais un peu affecté, un peu, oui, on peut le dire, perturbé, en apprenant, c'était hier matin, donc le décès de quelqu'un dans l'église que j'ai fréquenté aux États-Unis. C'était un homme, il avait à peu près 75 ans, peut-être un peu plus. C'était un de mes enseignants à l'école du dimanche. C'était un homme qui travaillait beaucoup avec les enfants, que tout le monde appréciait. Et il travaillait pour le Seigneur, et je sais qu'il est auprès du Seigneur en ce moment. Déjà, ça c'est une bonne chose. Mais d'avoir appris cela, c'est quelqu'un, comme je dis, que j'appréciais beaucoup, que je connaissais très bien. Patrick, je crois, aurait bien apprécié ce frère, parce que c'était quelqu'un qui faisait toutes sortes d'activités. Il faisait des rondos avec un ami dans l'église. Ils ont fait deux ou trois fois, ils sont allés en Alaska, ils ont fait deux ou trois semaines de camping. Et puis, il avait presque 60 ans, il faisait encore des galipettes. Voilà, c'était un homme très actif et tout. Mais qui travaillait beaucoup pour le Seigneur, qui aimait le Seigneur. Et voilà. Et d'avoir appris donc, sa promotion céleste, comme on le dit, ça m'a amené à réfléchir pas mal justement au fait que, oui, un jour, nous mourrons, si le Seigneur tarde, et que aussi, bon, nous serons avec le Seigneur, et que, oui, un jour, Dieu reviendra, et que cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a autre chose, et pourtant, nous vivons cette vie. Et comment nous devons vivre aujourd'hui? Et j'ai tourné à méditer, donc, ces derniers temps, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Et permettez-moi de lire donc la première partie de ce chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est un peu plus long que d'habitude, mais voilà, j'aimerais voir le contexte du verset qui va nous intéresser ce matin. Donc, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis les pères, que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde est alors péri, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Et que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les arbres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est encore les dissolutions, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irréprochable dans la paix. Prions. Oui, Seigneur, nous te remettons ces quelques instants que nous passons dans ta parole, que tu diriges nos pensées, notre cœur, Seigneur, et que tu puisses nous transformer par cette parole puissante, que nous ne restons pas indifférents, inactifs, mais au contraire, Seigneur, que ce soit toi qui travaille en nous, que nous te laissions toute attitude pour le faire. Entendons-nous, prie. Amen. Alors voici ces paroles, on va dire plus ou moins connues. J'imagine que vous l'avez déjà lu ou entendu ces versets. Et lorsque nous commençons au début du chapitre, et on voit que Pierre donne un avertissement sur les derniers temps. Et de savoir que nous vivons ces derniers temps. Paul aussi va faire une description des hommes à la fin des temps. Et ça ressemble bien à notre époque, n'est-ce pas, quand il va parler de rebelles, quand il va parler d'orgueilleux, ne cherchant que leur propre gloire. À ce moment-là, on se dit, oui, nous vivons dans ces temps-là. Et puis, aussi, ici, il a dit, il y aura ces moqueurs, il y aura les gens qui vont remettre en question à cause de leur propre convoitise, parce que eux, ils veulent avancer, ils vont remettre en question tout, et entre autres, ils vont remettre en question même le retour de Jésus-Christ. Et tu as dit, non, 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 nous ne pouvons pas faire cela. Et il dit, c'est de manière délibérée au verset 5, que ces personnes, ben, ils veulent ignorer, ils se gardent dans l'ignorance. Et du coup, Pierre dit, nous ne sommes pas de ce nombre, n'est-ce pas? Nous avons la vérité, nous avons la parole de Dieu, donc il n'est pas question pour nous d'être ignorants. Et si nous sommes ignorants, ben, la faute est à nous. La faute, c'est à l'autre. Et puis, il va revenir à cette idée d'être ignorant au verset 8. Et c'est intéressant ce qu'il dit au verset 8. Nous connaissons bien ce verset, parfois on le cite, au moins en partie, quand il dit, ben, bien aimé, vous ne devez pas ignorer une chose. Et du coup, on peut comprendre ceux qui vivaient à cette époque au premier siècle, ben, Pierre, est-ce qu'on ne doit pas ignorer? C'est que devant le Seigneur, un jour est imminent, imminent sont comme un jour. Ce que Pierre veut enseigner, c'est bien sûr, le temps ne compte pas pour Dieu. Nous comptons, Dieu a mis en place les saisons, il a mis en place le soleil et la lune, justement pour que nous ayons les jours, pour que nous ayons les moyens pour compter et voir défiler le temps. Mais pour Dieu, le temps ne compte pas. Que ce soit un jour, que ce soit 1000 ans, s'il parle encore 1000 ans à revenir, qu'est-ce que c'est devant lui? Il existe une petite éternité. Et Pierre s'appuie là-dessus pour dire Dieu a accompli toutes ses promesses dans le passé. Il a parlé de la création dans les quelques premiers versets. Et puis, verset 1, il dit ben, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Comme quelques-uns le croient, certains vont prendre la patience de Dieu pour l'infidélité à ses promesses. Ils vont dire, ben, Dieu aurait dû déjà agir. Dieu aurait déjà dû faire quelque chose. Mais il dit non. Non, non, non. Quelques-uns croient en cela, ne soyons pas de leur nombre. Bon, sommes-nous fermes sur les promesses de Dieu, mais pourquoi est-ce que Dieu est patient? Pourquoi est-ce que Dieu tarde? Dieu aurait pu revenir tout de suite. Dieu aurait pu revenir hier. Dieu aurait pu revenir il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il use de patience envers vous. Et souvent, au moins pour moi, j'entends ce verset dans ma tête et je transforme ce mot de vous en nous. Hein? Mais il use de patience envers vous. Alors, à qui est-ce que qui est très très fréquente. Comment est-ce que le fait que Dieu tarde à venir, à revenir, manifeste sa patience envers nous? On pourrait penser qu'il y a une patience envers les inconvertis, ce que Paul va dire dans la suite, ce que Pierre, pardon, va dire dans la suite de ce verset. Mais il use de patience envers nous, les chrétiens. Et on voit, nous ne voulons pas aucun périsse, nous voulons que tous arrivent à la repentance. Et on va revenir à cette idée un peu plus tard dans le message. Mais regardez cela, Dieu use de patience envers nous, chrétiens, en retardant sa venue, son retour. Et dans notre logique humaine, on pourrait se dire, mais ça n'a aucun sens. Nous avons tous, je suis certain, des gens que nous aimerions revoir. Et là, trois parties. Nous aimerions revoir et on pourrait se dire, mais Dieu ne veut-il pas que je revoie les personnes le plus tôt possible? Et oui, dans un sens, Dieu veut cela. Et pour ça, on vient à autre chose. Puis verset 10, on y arrive. Pierre explique ce qui va se passer à la fin, on va dire dans les grandes lignes. Vous avez vu Dieu apparaître devant les gens à la distance. À la fin, Dieu parlera une deuxième fois, et puis il va détruire cet univers. Ce jour, le Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre et les arbres qu'elle renferme seront consumés. À la fin de verset 12, les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Et, comme je dis souvent, je blague un peu, je crois au Big Bang, vous le savez, je crois au Big Bang. Non pas que le Big Bang a tout produit au début, mais le Big Bang, il va tout détruire à la fin. Parce que quand Dieu va parler, et l'univers va se dissoudre, comme on voit ici, mais vous pouvez croire que ça va être un Big Bang. Dieu va parler et ce monde qui tient ensemble pour le moment, comme nous voyons au verset 7, c'est par sa parole que cet univers existe et tient ensemble, il va parler et ce monde va disparaître. Ce monde tel que nous le connaissons. Et Dieu va créer un nouvel univers. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, 22, on parle plus en détail, mais ici Pierre, il donne les grandes lignes de cela. Et puis, verset 11, nous voyons que tout est en voie de dissolution. En fait, tout va vers la destruction. Et nous le voyons, l'homme, il est habile à détruire, n'est-ce pas? Il est habile à détruire cette terre. Nous, on ne prend pas soin en général. Même si on commence à en parler de plus en plus, écologie, préserver la planète et tout, l'homme est habile à détruire et le faire avec cette terre, tout va en se dégradant. Et il dit, puisque tout cela, tout cet univers des terres est en voie de dissolution. C'est là que c'est ici où je veux en venir et où j'aimerais passer quelques instants avec vous. Combien votre conduite et votre piété doivent être sainte? Reviens à cette idée au verset 13. Mais combien votre conduite et votre piété doivent être sainte? Et on met souvent l'accent là-dessus, et il faut, et on va revenir à cette idée. Mais les mots qui ont retenu le plus mon attention dans ce passage, c'est au verset 12. Parce que d'un côté, nous avons ce désir, oui, de voir les gens que nous avons aimés, que nous avons appréciés, qui nous ont quittés. Nous avons ce désir de les revoir. Nous savons que Dieu use de patience envers nous, en tant que chrétiens. Et pourtant, Pierre, il a dit au début de verset 12, attendez, et qui aime attendre, ils sont très peu nombreux, les gens qui aiment attendre. Vous dites aux enfants, bah, attendez. Non, les enfants, ils veulent tout de suite, et parfois des adultes aussi. Attendez, j'ai posé cette question. Comment pouvons-nous passer vers le monde du jour et comme si nous pouvions presser Dieu. En disant, mais Dieu, tu agis trop lentement et pourquoi ça se passe maintenant attends. Comment est-ce que nous pouvons passer vers le monde du jour et je commence à réfléchir là-dessus et je suis convaincu qu'on a quelques éléments dans ce passage. Déjà cette idée, et moi je mettrais cette idée de soupirer. On attend, mais ce n'est pas une attente passive, en train de tourner les pouces, en train de ne rien faire. Alors, c'est une attente, comme on va le voir, qui sera active. Mais c'est un moment extra triste. Cette attente, nous devrions l'avoir. Mais il dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Du coup, on va prendre deux grands lignes ce matin. Dans un premier temps, on va voir quelques raisons, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi ? Et effectivement, comment ? Parce que le texte, dans ce sens, n'est pas explicite. Il dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Attendez c'est tout. Et pourtant, je suis convaincu, et on va aller voir, il y a plusieurs éléments aussi qui vont nous aider dans cela. Mais revenons sur cette idée de pourquoi. Pourquoi attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu? N'avons-nous pas assez de responsabilités dans notre vie aujourd'hui? N'avons-nous pas assez de choses à faire, notre travail, la famille, les différents loisirs que nous avons, nous venons de sortir de l'été, on est sur le point de reprendre, peut-être que beaucoup vous avez repris les activités habituelles, école, travail et autres. N'avons-nous pas assez de choses à faire dans cette vie que d'attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu? Et en fait, juste très rapidement, trois raisons qu'on va relever ici. Déjà, la première, c'est que c'est un commandement. Ici, ce n'est pas optionnel. Vous avez une voiture, il y a ce qu'on appelle les options. Et on peut choisir, ah oui, parce que je veux mettre telle ou telle prix, oui, je prendrai telle ou telle option. Parfois, dans certaines options, on les laisse parce qu'elles sont moins importantes et tout. Et ce n'est pas optionnel. On ne peut pas dire oui, je le ferai, mais par moment je ne le ferai pas. Non, cela ne s'applique pas à moi. Non, Pierre dit sans distinction, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Chaque chrétien est concerné par ce verset, par ce commandement. C'est un commandement qui vient de Dieu lui-même par l'intermédiaire de Pierre. Et si c'est un commandement, et si nous ne sommes pas en train d'obéir à ce commandement, nous sommes en train de désobéir. Et si vous devez me poser la question, si vous devez vous poser la question, est-ce que j'attends et je passe l'avènement du jour de Dieu? Sinon, je dois reconnaître que je suis dans la désobéissance. C'est quand même quelque chose de grave. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Déjà parce que c'est un commandement. C'est un commandement qui vient de la part de Dieu. Continuellement, nous devons être en train d'attendre et de hâter son retour. Mais également, nous devons attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu parce que lorsque Dieu reviendra, nous serons avec lui. Aujourd'hui, c'est vrai, dans un sens, nous avons une question de la présence de Jésus-Christ. Il y a du temps long si nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, et nous parle à travers sa parole, mais nous ne le voyons pas, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux physiques, mais quand Dieu reviendra, nous serons transformés comme Paul au Corinthiens, parce que nous ne verrons qu'avec l'idée. Nous serons transformés et nous allons pouvoir voir Dieu et nous serons avec Dieu pour toute l'éternité. Qui ne voudrait pas cela? Et avec une telle perspective, comment ne voulons-nous pas que ce jour-là arrive au plus vite? Parfois, quand soit on a une mauvaise nouvelle, avec un passe-temps, c'est une bonne chose, une surprise ou autre, là on veut que ça arrive le plus vite possible. Et le fait de savoir que nous serons avec Dieu pour toute éternité, nous serons dans sa présence, nous allons pouvoir nous louer et l'adorer pendant toute éternité, cette vérité-là doit nous pousser à abandonner aussi à Dieu. Nous serons avec eux. Quelle vérité merveilleuse pour nous. C'est une certitude. Ce n'est pas un vain espoir. Peut-être que ça se fera, peut-être pas. Non. Si nous n'avons pas fait de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel par un acte de foi, nous serons soit le connard, soit au retour de Dieu, nous serons dans la présence de Dieu pendant toute l'éternité. Mais en plus de cela, une troisième raison que nous voyons ici, regardez vraiment verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on peut se dire, mais pardon, pourquoi? De nouveaux cieux, de nouvelle terre, ok, très très bien. Mais regardez, la fin de verset 13. Où la justice habitera. Et puis, à la fin du verset 14, être trouvé par lui sans tâche et irréprochable, dans la paix, Dieu va rétablir la justice et la paix. Aujourd'hui, y a-t-il de la justice sur la terre? Très peu. Très peu. Il y a plus d'injustice que de justice. Et on peut dire, il n'y a presque jamais de justice selon Dieu. Parfois, il y a un peu de justice selon les hommes. Mais là encore, ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup d'injustice. Est-ce qu'il y a de la paix sur la terre? Non. Dans quelques endroits, mais en général, il y a beaucoup d'instabilité. Il n'y a pas la paix. Il y a le conflit. Il y a la friction. Il y a la guerre. Il y a la souffrance. Et quand Dieu reviendra, il va rétablir tout cela. Et lui, il va apporter la justice parfaite, sans erreur, toujours équilibrée. Et il va apporter la paix qui va durer. Et ne voulons-nous pas cela? Ne soupirons-nous pas après cette justice et cette paix? Nous qui avons la parole de Dieu entre nos mains. Qui cherchons, nous, à agir avec justice, qui cherchons à agir pour la paix, malgré tout ce qui se passe dans ce monde. Nous savons qu'un jour, nous habiterons un monde où il y aura la parfaite justice, où nous ne serons pas dans la minorité de ceux qui se tiennent pour la justice et pour la paix. Non, tous se tiendront pour la justice et pour la paix, selon Dieu. Et parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ne soupirons-nous pas après ce jour où tout sera rétabli? J'espère que oui. Donc voilà, on voit déjà qu'il y a de bonnes raisons pour attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, c'est-à-dire le retour de Dieu pour rétablir toute chose. Il y a de bonnes raisons. Nous seuls, on peut avoir une bonne vie ici. On peut réussir à plusieurs niveaux, on peut expérimenter et vivre plein de choses, mais ce n'est rien en comparaison avec ce qui nous attend. Et Dieu nous révèle certaines de ces choses, et ça doit nous donner cet avant-goût de ce qui nous attend, et doit nous pousser à l'attendre et surtout à hâter son retour. Mais pour revenir à cette idée, hâter le retour de Dieu, hâter le retour de Jésus-Christ. Comment pour Bartien? Parce que comme il dit, Bartien, il est explicite ici dans ce verset. Il ne dit pas hâter le retour de Dieu, et puis voici comment il faut le faire. Mais réfléchissons un peu ensemble, parce que je suis convaincu que. Ici, dans ce passage, il y a plusieurs éléments, plusieurs principes que nous pouvons relever qui vont nous aider si nous voulons entrer dans le monde du jour de Dieu, c'est tout simplement la prière. Et la prière, il y a Dieu. Et Jean, il a bien compris cette principe. En fait, en fin de l'Apocalypse, parmi les dernières paroles qu'il va dire, parmi les derniers mots de la Bible, qu'est-ce que Jean va dire? Apocalypse chapitre 22. Il dit, oui, viens Seigneur Jésus. Il vient de voir toute cette révélation. Je viens de lui dévoiler une grande partie de ce qui va se passer à la fin des hommes. Pendant la tribulation et même avec la nouvelle Jérusalem et les nouveaux cieux, la nouvelle terre, tout cela. Et qu'est-ce que l'on dit? Il est savoir vers Dieu en disant oui. Viens. Viens. Sa prière, c'était pour que Jésus revienne au plus vite. Il fallait la misère autour de lui. Il fallait sa propre circonstance. Il souffrait littéralement pour sa foi en Jésus-Christ. Et il dit, il est aimé de voir vers Dieu. Je crie, je demande à Dieu de revenir. Et par la prière, Jean a élevé sa voix, Pierre, les apôtres, les chrétiens de tout temps ont élevé leur voix vers Dieu dans la prière pour lui demander de revenir. Et c'est une bonne chose, c'est une chose normale. Nous ne devrions pas avoir peur de demander à Dieu de revenir comme si c'était quelque chose de. N'était pas naturel. Non, une prière constante de notre part devrait être Seigneur, reviens. Oui, nous souffrons dans ce monde et merci pour ta grâce, merci pour ton soutien, merci pour ton encouragement, mais Seigneur, reviens. Nous avons hâte de te revoir. Nous avons hâte, oui, d'être délivrés de ce corps de mort, comme Paul va l'appeler dans le plus profond. Nous avons hâte de te revoir, de te bénéficier, de jouir de ta présence et de tout ce que tu as préparé pour nous. Et dans la prière, d'élever cela à Dieu, le faisons-nous. Prions-nous dans ce sens. Nous prions pour toutes sortes de choses, des difficultés, des besoins légitimes. Mais avons nous tendance un peu à oublier de prier pour que Dieu revienne. Je dois le reconnaître dans ma propre vie, oui. Parfois, nous avons notre vie ici et ne réfléchissons pas trop à l'avenir. Et on se dit, mais voilà, j'aimerais faire ceci ou ça avant que le Seigneur revienne. Parfois, les gens disent, voilà, j'aimerais arriver à tel tel âge, j'aimerais faire ceci ou cela. J'aimerais avoir tel bon emploi. Certains disent, j'aimerais me marier, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais avoir une maison, j'aimerais avant que le Seigneur ne revienne. Donc le Seigneur ne revient pas trop vite. Très bien quand même, mais pas trop vite. Mais ce n'est pas l'exemple de la Bible. Donc les chrétiens de la Bible prient pour le retour de Christ en plus vite. Et ils élevaient leur voix à Dieu constamment en disant, oui, Seigneur revient. Les chrétiens de Thessalonique, ils étaient tellement convaincus que le Seigneur reviendrait vite, ils ont rendu leur bien, et ils se sont mis ensemble, et Paul leur a dit ça bien fort, parce qu'ils vivaient sur le dos d'autres en attendant la retour de Jésus-Christ. Et Paul dit, non, c'est pas comme ça. Il faut attendre le retour de Jésus-Christ. Mais il faut quand même travailler ici. Mais il faut prier. Il faut prier, il faut demander à Dieu de revenir. Parce que Dieu veut revenir. Il n'attend pas parce qu'il ne veut pas revenir, le prendre avec lui, non. Il attend pour les raisons qui lui appartiennent et pour les raisons que nous allons voir un peu plus tard. Mais voilà, comment pouvons-nous hâter le retour de Dieu par la prière? Nos prières, et ceci me dépasse, mais nos prières, quelque part, influence Dieu et son plan. Il les intègre dans son plan. C'est extraordinaire. Et du coup, en priant, oui, nous agissons dans le plan de Dieu. Mais, en plus de la prière, Pierre nous montre ici que nous pouvons hâter retour dans une conduite conforme à la Bible. Verset 11, nous l'avons lu. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Et puis, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés parmi, sans tâche et irréprochable. Avoir une conduite sainte, conforme à la Bible aujourd'hui, Dieu va regarder cela, et quand on voit tous les chrétiens faire cela, ah oui, à ce moment-là, on est en train de dire non seulement avec notre bouche, par la prière, mais avec nos actions, avec nos attitudes, oui, nous voulons que le Seigneur revienne. Parce que imaginez-vous, Jésus-Christ revient, et puis, à ce moment-là, nous avons le péché, quel qu'il soit. Nous sommes en train de voler. Pour qu'il sèche, pour que je ne sèche quelle raison, nous sommes en train de voler. Nous sommes en train de faire tout autre chose. Imaginez la honte que nous aurions à ce moment-là. Si, à son retour, Jésus-Christ ne nous trouvait pas fidèles, ne nous trouvait pas avec une conduite conforme à sa parole. Et en vivant une vie qui est conforme aux principes bibliques, nous lui montrons qu'il nous sommes prêts. Nous lui montrons que nous n'attendons pas qu'il revienne dans un avenir lointain qui ne nous affecte pas vraiment, mais nous sommes prêts à ce qu'il revienne maintenant. Nous nous tenons prêts. Et Pierre dit, en sachant qu'un jour, Dieu reviendra. On ne sait pas quand. Cela va nous surprendre. Cela surprendra tout le monde. Nous ne savons pas quand. Mais Dieu reviendra. Et avec la certitude que Dieu reviendra, aujourd'hui, nous devons régler notre vie selon les principes de la Bible. En ce qui concerne nos gestes, gestes d'amour, le réconfort, l'encouragement, nos attitudes, nos paroles, tout cela doit être conforme à la Bible. Et si elle ne l'est pas, nous ne sommes pas en train de montrer que nous sommes prêts à ce que Dieu revienne. Et nous ne sommes pas en train d'appeler son retour. Pierre dit une conduite sainte, c'est-à-dire une conduite séparée, doit caractériser chaque enfant de Dieu qui attend avec impatience et qui veut hâter le retour de Dieu. Dans notre monde aujourd'hui, c'est un peu dans un sens difficile et facile de se démarquer. Dans un sens, c'est facile de se démarquer parce que le monde est tellement pervers, le monde il est tellement dans le péché, le monde il est tellement loin de Dieu, que dans un sens, il serait facile de se démarquer du monde. Et dans un autre sens, nous vivons dans ce monde, nous sommes influencés par ce monde. Et du coup, il devient de plus en plus difficile à se démarquer, à avoir une conduite, comme Pierre va dire, sainte, c'est-à-dire séparée pour Dieu. Mais lorsque nous le faisons, nous montrons que nous sommes prêts, nous montrons que nous nous tenons prêts pour le retour de Dieu. Et de se poser la question, eh bien, par ma vie, dans tous ces aspects, est-ce que je montre que je suis prêt? Parce que Dieu revient à l'instant. C'est une question que nous devons nous poser. Et puis, troisième principe qui nous aide à voir comment nous pouvons hâter le retour de Dieu, il nous faut revenir au verset 9, parce que ce sera par le témoignage, à la fois par la prière, par une conduite conforme à la Bible, mais également par le témoignage. Regardez bien, c'est là. Nous l'avons vu, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use patience envers vous. Je vous le dis, retenez bien cela. Il use patience envers vous. Il parle aux chrétiens. Bien sûr, Dieu use patience envers les non-chrétiens. Mais spécifiquement dans ce verset, Pierre est en train de dire, il use patience envers vous. Et puis, il va parler des inconvertis en disant de certains périssent, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et je vous pose la question, vous répondez dans votre esprit, dans votre tête, comment est-ce que les inconvertis vont se convertir, vont arriver à la repentance? Pas un coup de magie, coup de baguette magique. Non, non. Ils vont arriver à la repentance par le témoignage des chrétiens, par l'annonce de l'Évangile. Et c'est la volonté de Dieu que le plus grand nombre soit sauvé. Et il veut que cette porte du salut soit répandue par tous. Et comment est-ce que cela se fait? Cela se fait à travers vous et moi qui apportons ce message. Et Dieu use de passer envers nous, chrétiens, pour nous donner encore l'occasion de porter cette bonne nouvelle autour de nous. Si Dieu était revenu hier, nous n'aurions pas les occasions de témoigner pour lui aujourd'hui. S'il était revenu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 100 ans, ce sont toutes ces années où les chrétiens n'auraient pas pu témoigner. Et du coup, le témoignage, pour nous, pour emmener les gens à la repentance, c'est-à-dire changer le conduit, accepter le Seigneur comme leur sauveur personnel, ça veut dire que notre activité principale aujourd'hui. Et en faisant cela, nous montrons que oui, nous sommes prêts à ce que Dieu revienne. Parce que les gens se convertissent, gloire à Dieu. Mais un jour, il sera trop tard. Quand Dieu reviendra, il sera trop tard. Quand on va être devant Dieu, le choix aura déjà été fait. Soit oui, j'ai accepté Jésus-Christ, soit non, je vais rejeter. Ce ne sont que les deux choix possibles. Et pour nous, aujourd'hui, de pouvoir annoncer cela, Dieu ne se passe pas envers nous. Il nous donne encore aujourd'hui les occasions pour témoigner. Et en témoignant, en poussant les gens à la repentance, nous montrons déjà que nous sommes prêts, mais aussi nous attendons le retour de Jésus-Christ parce que Dieu sait la dernière personne qui se convertira. Et quand cette personne se convertira, à ce moment-là, comme la Bible dit, le dernier des païens soit rentré. À ce moment-là, il reviendra. Pas avant, pas après. Du coup, Dieu use cette patience envers nous. Il ne veut pas que les gens périssent. Oui, il va bien parler. Il va dire, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Et cela remonte bien jusqu'à Ézéchiel. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut qu'il se repente, qu'il vive. Et nous avons cette possibilité d'aider les gens à arriver à la repentance. De reconnaître leur péché. De reconnaître qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes et puis de se tourner vers Dieu pour se soigner. Nous avons cet immense privilège de faire cela aujourd'hui. Et en le faisant, nous attendons le retour de Dieu. Et Dieu voit cela dans notre vie. Et il va agréer cela. C'est quelque chose qui lui est agréable. Et lorsque nous sommes dans la prière pour que son retour arrive, lorsque nous témoignons autour de nous, à ce moment-là, nous montrons que nous attendons son retour. Et c'est là où, oui, nous serons trouvés, verset 14, sans tâche, irréprochable, dans la paix. Mais encore une fois, cela ne vient pas de nous. S'il y a quoi que ce soit de bon en nous, cela vient de Dieu. C'est sa grâce, travaillant à travers nous, qui va nous permettre de faire cela. Et du coup, lorsque nous regardons ce monde autour de nous, toute son instabilité, toute, oui, la justice, la peine, la méchanceté, la misère, la souffrance, toutes ces choses autour de nous. Lorsque, oui, vous pardonnez-moi, lorsqu'il y a des choses qui se passent, qui vous déstabilisent, à ce moment-là, souvenons-nous de ces versets, revenons à ces versets pour dire, oui, Dieu, ceci me pousse à hâter ton retour. Je désire encore plus ton retour, et parce que je le désire encore plus, je vais y travailler. Je vais prier. Je vais avoir la visage. Je vais témoigner, parce que je veux que tu reviennes. Je sais que je serai dans ta présence. Je sais que tu rétabliras toujours. Tu seras merveilleux. J'attends cela. Et du coup, j'agis aujourd'hui parce que tu reviens. Et du coup, à chacun de nous de nous poser la question, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est réellement authentique au jour le jour, dans notre quotidien, quand parfois ça va mal, quand parfois ça va très bien, on n'a aucun souci, pas de problème. Ou quand ça va mal, quand rien ne semble aller, dans ces moments, est-ce que nous manifestons que nous attendons et nous attendons le retour de Dieu? Oui ou non? J'espère que oui. Je veux que ce soit le cas dans ma vie. Je veux que ce soit le cas dans cette église. Que cette église soit connue comme une église qui attend le retour de Dieu, mais qui n'attend pas en retour et n'a rien fait. Non, l'Église qui est active également, parce que chacun est actif parce que nous voulons le retour de Dieu. Quel jour merveilleux ce sera, n'est-ce pas? En un clin d'œil, comme Paul va dire, en un instant, nous sommes transformés. Tout changé. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons-nous? Oui, j'espère. Quel choix allons-nous prendre? Continuer notre vie sans rien changer? Ou bien de changer pour manifester clairement, sans ambiguïté, que oui, nous attendons et nous attendons le retour de Dieu. Toute l'honneur et toute la gloire pour cela. Entendons-nous prier. Amen.